Donc, à chaque fête, Dieu se montre d'une manière particulière. La semaine dernière, on a fêté la fête de la Sainte Trinité, une manière de comprendre que Dieu, eh bien, il est Trinité, il est communion d'amour. Bon. Et donc, on a un petit peu réfléchi, médité dessus. À Noël, vous voyez, on fête Dieu enfant. Donc, c'est un autre regard. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'est fait enfant ? Puis aujourd'hui, c'est Dieu qui se fait nourriture. C'est encore autre chose à comprendre. Oui, chaque fois, l'Église nous dit « Tiens, je voudrais que vous saisissiez quelque chose de ce mystère du Christ qui a plusieurs faces. » Alors, ce Dieu qui se fait nourriture, c'est déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Hein, dans la première lecture, « Souviens-toi de la longue marche dans le désert. C'est moi qui t'ai donné la manne. Hein » Je me suis manifesté à toi comme nourriture. Alors, cette parole de l'Ancien Testament, peut-être qu'il faut comprendre deux choses. Bon. La première, c'est que Dieu se révèle comme nourriture. Donc, il faut réfléchir un tout petit peu sur la nourriture. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que Dieu dit, hors de moi, tu peux mourir. Si je me montre à toi comme nourriture, c'est que je me montrais comme quelqu'un d'essentiel, de vital. Hein ? Je suis cette force qui va te permettre de vivre. Donc c'est important, du coup, je vois bien l'articulation avec le baptême. Hein ? Le baptême me fait entrer dans une famille et l'Eucharistie me fait grandir dans cette famille. Hein ? L'Église va grandir, va croître quantitativement par le nombre de baptisés. Plus il y a de baptisés, plus il y a de chrétiens. Mais l'Église va grandir qualitativement par l'Eucharistie. Le fait que, et c'est ce que dit saint Paul, hein, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Hein, si on a part à un seul pain, si on a bien compris ce qu'on faisait en communion, on va devenir un seul corps. Et moins on comprend l'Eucharistie, eh bien, plus on est décentrés les uns des autres. Plus nous sommes centrés sur le Christ Eucharistie, plus nous sommes les uns en communion avec les autres. Comme dit l'Évangile, hein, de même que le Père est en communion avec moi, eh bien, moi, je vais vous donner cette nourriture pour que vous soyez en communion avec moi, comme moi, je suis en communion avec le Père. Voilà. L'Église grandit quantitativement par le baptême et qualitativement par l'Eucharistie. Ce qui veut dire que nous avons le plus grand trésor, cette force, cette nourriture qui nous est donnée chaque dimanche et même chaque jour. Ce qui fait que, normalement, si j'ai bien compris ce qui se passait à la messe, si je peux communier plusieurs fois par semaine... Je le fais. Je pense à des personnes, par exemple, qui sont retraitées. Dès qu'on est retraité, normalement, on peut communier chaque jour. Enfin, si on a moins de temps, enfin, si on n'a pas le temps pour consacrer une demi-heure, une heure à Jésus à la retraite, là, il y a un souci. Là, faut refaire. faut voir un coach. coach des retraités, là. Bon. Et les autres qui ne sont pas retraités. Eh bien, est-ce que j'ai le désir de communier chaque jour ? Je ne peux pas forcément, parce que j'ai une famille nombreuse, parce que je travaille et que ça, c'est pas possible, parce que j'ai pas de messe près de chez moi, c'est possible, mais est-ce que j'ai le désir ? Et si j'ai pas le désir, c'est qu'il y a un souci. Il y a un souci, mais c'est pas dramatique, on est en chemin, mais il faut grandir qualitativement, il faut demander au Seigneur, « Seigneur, donne-moi de comprendre en fait, ce mystère, ce miracle qui se passe ici à la messe chaque jour. Je ne le comprends pas, je ne le désire pas. Ben voilà, pas dramatique, il faut faire des vraies prières à Dieu. Hein. C'était Marie-Noël qui faisait une prière, « Dieu, je ne vous aime pas ». Très belle prière de Marie-Noël. Bon, Seigneur, j'ai du mal, je ne suis pas passionné par vous, par toi. Donne-moi de goûter. Et à ce moment-là, vous voyez, si je ne peux pas communier, mais que j'ai le désir de communier, eh bien, le Seigneur va venir. C'est ce qu'on appelle la communion de désir. Le Seigneur est capable de venir dans l'existence de quelqu'un à partir du moment que cette personne désire vraiment. Donc ça, c'est la première chose sur cet aspect de nourriture. La deuxième chose, vous voyez, quand je regarde de près le texte, la première lecture, « Souviens-toi donc de cette longue marche dans le désert, c'est moi qui t'ai donné la manne, n'oublie pas le Seigneur qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage, c'est lui qui t'a fait traverser le désert, c'est lui qui a fait jaillir de l'eau, c'est lui qui a fait ceci, c'est lui qui t'a empêché d'avoir les scorpions, etc. » Ça, c'est un texte, vous voyez, qui est écrit bien après l'Exode. Et le Deutéronome, qui médite sur l'Exode, a dit au peuple d'Israël, qui n'est plus en Exode, voilà, qui dit « Attention, rappelle-toi, je t'ai libéré, j'ai pris soin de toi, je t'ai empêché d'avoir des scorpions, j'ai tout ça, j'ai vraiment été ton Dieu. » Pourquoi le Seigneur dit ça à travers le prophète ? Parce que le peuple, vous voyez, quand il ne se souvient plus que Dieu est celui qui le protège, il tombe dans l'idolâtrie. Le peuple, vous voyez, il est au bord de l'idolâtrie, alors le prophète lui dit « Attention, mais souviens-toi que c'est Dieu qui t'a protégé, c'est Dieu ta sécurité. C'est lui. » Donc ne commence pas à frayer avec le mensonge, avec les idoles, avec ceci, c'est lui. Voilà, qui est ton Dieu. Et j'aime bien ce que disait une théologienne, elle disait « Reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu est le seul moyen de ne pas tomber dans l'esclavage de quelqu'un d'autre. » Reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu est le seul moyen de ne pas être esclave de quelqu'un d'autre. Pourquoi nous allons à la messe dimanche ? Voilà, dimanche, c'est pas pratique du tout. On va être clair entre nous. Moi, je sais pas, j'habiterai, je serai pas prêtre. Voilà. Je serai un jeune pro qui est libre de son temps. Le truc cool, eh bien, j'irai à la messe vendredi soir et je partirai tout le week-end faire du surf, dormir, squatter une petite île, et puis hop, et le dimanche continue, etc. À gogo quoi, 24 heures de sport. Bon, et l'Église me dit non. Mais pourquoi ? Mais pourquoi tu vas exactement, tu vas venir à la messe à 10h30, ça te plante déjà toute la matinée, tu vois ? Pourquoi ? Pour signifier que c'est lui ton Dieu. Parce que sinon, rapidement, eh bien, à un moment donné, je vais dire, je vais faire du je sais pas quoi, de la promenade, du sport, du machin, dimanche matin, et j'irai à la messe dimanche soir. Puis, je vais à la messe dimanche soir, bon, la cathédrale. Puis, 3 semaines après, je refais le même coup, mais là, c'est curieux, mais je ne vais pas à la messe dimanche soir. Que vraiment, je n'ai pas fait mes devoirs, je ne sais pas quoi, bazar, quoi, tu vois ? Bon, ou le repassage, bon. Et puis, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? En fait, à la fin, je ne vais plus à la messe. Et je vais à la messe aux grandes fêtes, de temps en temps. Et du coup, vous voyez, c'est le sens du Shabbat. Il y a une matinée, ou samedi soir, enfin bref, il y a un moment donné où c'est bloqué. C'est bloqué. C'est pour Dieu. Et donc, je me signifie à moi-même que, en fait, Dieu est le premier. C'est exactement le Shabbat. Le Shabbat, c'était, fallait pas toucher, fallait pas faire de cuisine, fallait pas marcher plus de 900 mètres. Pourquoi ? Pour signifier que c'est Dieu qui est premier. Le week-end, c'est pas pour faire le tour du Morbihan à pied. Tu peux te promener, mais raisonnablement. Et c'est Dieu qui est en premier. C'est un moment consacré à Dieu. Ouais. Alors ça, c'est très beau, ça. Voilà. Et c'est ça que veut dire la première lecture. Mais souviens-toi que c'est lui. Et quand je vais à la messe, eh bien, je me souviens. Bon, alors ça, c'était le premier aspect. Ce qui va faire qu'on se souvient que Dieu est nourriture, qu'on se souvient que Dieu est Dieu, que nous sommes qu'une créature et que Dieu est Dieu, eh bien, nous le signifions par notre présence ici. Bon. La deuxième chose que je trouve important de rappeler en ce jour, c'est évidemment ce que dit l'Évangile. Ma chair est vraiment une nourriture, mon sang est vraiment une boisson. Nous communions au corps et au sang du Seigneur. Ce n'est pas un symbole. C'est vraiment Jésus qui est présent dans l'Eucharistie. Nous assistons chaque dimanche au plus grand miracle. Et je dirais, c'est pour ça que je suis prêtre. Je ne suis pas prêtre pour organiser des activités sur la paroisse, des pèlerinages à droite à gauche, ou des soirées sympathiques. Je ne suis pas prêtre pour prêcher, parce qu'il y a des laïcs qui prêchent très bien, qui parlent très bien. Je suis prêtre pour faire descendre sur l'autel Jésus-Christ. Voilà. Alors ça, c'est impressionnant, vous voyez, d'un Dieu qui se fait si fragile, si pauvre, qui fait qu'il faut bien comprendre, qu'on soit bien d'accord sur les termes. Nous n'avons pas la présence de Jésus dans le pain. Parce que ça voudrait dire que c'est du pain habité. Ce n'est pas du pain habité. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation, un changement de substance. Donc c'est vraiment le corps et le sang du Seigneur. Il n'y a plus du pain. On voit extérieurement du pain, mais ce n'est plus du pain. Voilà. Ça, c'est le seul cas où la chose est totalement transformée et les apparences demeurent. Alors, de temps en temps, le Seigneur fait des miracles. Vous tapez « miracle eucharistique » sur Internet, vous avez l'Anciano, vous en avez en Argentine, vous en avez plein, pour montrer « c'est vraiment de la chair, c'est vraiment moi ». Alors, la chair, ça veut dire quoi? C'est une expression juive, voici le corps et le sang. Le corps et le sang, c'est deux termes extrêmes pour dire une totalité. De même qu'on dit « Dieu a créé le ciel et la terre ». C'est pas qu'il a créé d'abord le ciel et la terre, on ne sait pas trop comment il a créé, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'il a tout créé. Donc quand Jésus dit « je donne mon corps et mon sang », c'est-à-dire « je donne tout mon être ». Donc c'est à la fois toute sa personne physique, mais une personne physique, ça ne nous aiderait pas beaucoup, c'est son âme, c'est sa divinité, c'est son être, voyez. Bon, mais c'est très concret. C'est pour ça que Jésus dit « je donne mon corps ». Je donne pas mon âme, pas mon esprit. Alors c'est intéressant, quand vous lisez la suite du chapitre 6, vous avez les Juifs qui sont en train de récriminer. « Oui, mais celui-là, c'est une manière de parler, en fait, de même qu'on pourrait dire de quelqu'un, tu sais, je bois tes paroles. Ah, c'est très nourrissant ce que tu me dis. » Non, non, mais attendez, là, c'est pas mes paroles qui sont nourrissantes, c'est moi. Je vous donne mon être. Alors c'est, en grec, c'est marrant parce qu'il change de verbe. C'est plus manger, c'est mâcher, trogone. Non, non, si vous ne mâchez pas la chair du Fils de l'homme, c'est pas une figure de style, vous n'aurez pas la vie. Jésus veut vraiment se donner à nous avec son corps. Ça, c'est, nous sommes une religion incarnée. Alors, du coup, quelle est l'attitude, voyez, qui signifie peut-être une juste compréhension? Et je relisais des petites choses sur la messe. Et je suis tombé là-dessus, là, sur, en fait, la juste attitude pour signifier à nous-mêmes, envers Dieu, que nous avons bien compris que c'est le corps du Seigneur. Le symbole, le signe, c'est le fait de s'agenouiller. Alors, j'ai trouvé ça dans la présentation du Missel romain de 2002. Les fidèles s'agenouilleront pour la consécration, à moins que leur état de santé l'exige, ou qu'il y ait un manque de place, ou un grand nombre d'assistants, ou pour d'autres raisons qui s'y opposeraient. Le fait de m'agenouiller, voyez, au moment de la consécration, quand je lèverai, je dirais « ceci est mon corps, ceci est mon sang », eh bien, cet agenouillement va signifier l'adoration. De même que Dieu est venu à nous avec son corps, je vais revenir à lui avec mon corps. Vous savez que dans la messe, j'en profite, parce que c'est vraiment le lieu pour en parler, il y a plusieurs attitudes. Il y a l'attitude debout, qui signifie l'attitude du ressuscité. Il y a l'attitude assise, qui signifie l'attitude de la méditation, de l'écoute, comme Marie au pied du Seigneur. Et il y a l'attitude à genoux, qui signifie l'attitude d'adoration ou de supplication. Donc c'est important, vous voyez, d'avoir l'attitude des mains ouvertes aussi, comme dit le psaume, c'est l'attitude de l'orant, du priant, qu'on a au moment du Notre Père, souvent. Bon. Alors quand le pape Benoît XVI médite sur ce thème de l'agenouillement, il dit en fait le genou en hébreu, ça vient de Bérec, et ça veut dire la force. Et du coup, le fait de s'agenouiller, ça veut dire voilà, je plie les genoux, je dépose les armes, et voilà, c'est toi mon Dieu, je suis cette créature. Et il continue, une liturgie qui ne connaîtrait plus l'agenouillement serait intrinsèquement malade. Une liturgie qui ne connaîtrait plus l'âge de mouvement serait intrinsèquement malade. Il dit ça dans l'esprit de la liturgie, page 153. Voilà, donc, voyez, soyons renouvelés aujourd'hui, prenons conscience de cette bonté de Dieu, hein, vraiment Dieu est bon, il va jusque-là, hein, et profitons, voyez, de l'Eucharistie, nous n'avons que cette vie pour vivre de l'Eucharistie, hein. Au ciel, il n'y aura plus la parole de Dieu, il n'y aura plus de sacrements, il n'y aura plus d'Eucharistie. C'est le pain de la route. Et chaque journée sans Eucharistie, soit communiée physiquement, soit désirée par le cœur, chaque journée n'est-elle pas une journée sans soleil ? Voilà, c'est ma conclusion.